De nouveau, bonsoir Daniel Defer.
Albin Pénaranda, bonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons entendu une évocation de Marcel Proust par Louis Gauthier Vignal, Michel Foucault parlait du crime et du criminel, Christian Jambé à propos de son engagement à la gauche prolétarienne, et à l'instant, les débuts de l'université de Vincennes racontés par Claude Friou. Daniel Defer, c'est avec les homosexuels dans le regard des autres que s'ouvre cette deuxième partie. Pour ce numéro de Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, il recevait l'historienne Florence Tamagne et le journaliste Frédéric Martel en 2000. Pour reprendre le titre de l'émission, aujourd'hui, les homosexuels se voient-ils autrement dans le regard des autres que quand vous aviez 20 ans ?
Écoutez, j'espère, peut-être pas tous, hélas. Il y a une transformation majeure, la cause, je crois, de cette transformation majeure, pour moi, ce n'est pas le militantisme dont les deux livres dont on vient de parler ont fait leur objet. Ce n'est pas tant le militantisme que le drame, le sida. Il y a un livre, qui n'est pas terrible, mais qui s'appelle « Juif marais gay », où justement il dit « qu'est-ce qui fait une communauté ?» Dans un cas, ça a été la Shoah, dans l'autre, c'est le sida. Moi, je pense qu'effectivement, les homosexuels ont donné à connaître d'autres dimensions de leur vie que celles qui étaient admises en apparence, plus ou moins, qui était la sexualité. C'est-à-dire qu'il existait des lieux de promiscuité sexuelle, et le livre de Madame Tamagne fait la liste de tous les lieux de rencontre qu'il pouvait y avoir en Europe, mais il n'y a pas beaucoup de concepts, mais effectivement il y a beaucoup de noms dans son livre. Le livre de Frédéric Martel, lui, est davantage axé sur le militantisme, et dans ce militantisme, il insiste beaucoup sur le militantisme anti-sida, que ce soit AID ou ACT UP, mais surtout, je crois que c'est pas seulement le militantisme, c'est l'expérience qu'ont fait les sociétés et les pouvoirs publics, qu'ils avaient à prendre en charge la survie et la santé, la prévention des gens qui avaient des pratiques de same sex, avec le même sexe, et surtout pour les hommes, ça concernait quand même pratiquement pas les lesbiennes. Et ils ont eu à prendre en compte non seulement les pouvoirs publics, le corps médical, les familles, le milieu du travail. C'est-à-dire, autrefois, ce qui était connu de l'homosexualité, c'était son militantisme. Les figures qui apparaissaient étaient absolument minoritaires et c'était les gens qui pouvaient se mettre en avant. Là, les gens ont été pratiquement, je dirais, dénoncés par leur maladie. Et d'une certaine manière, les gens étaient obligés d'affronter et quelque chose, les familles n'étaient pas au courant dans une grande majorité des cas. Et d'autre part, les pouvoirs publics n'étaient pas affrontés à un militantisme sur des enjeux non pas de libération, mais de soins, de survie, de prix des médicaments, de réception dans les hôpitaux, d'accueil, de dépistage, de prévention, et qui étaient tous des enjeux politiques. Je pensais quand même qu'en 84, quand j'ai créé AID, le préservatif ne pouvait pas être objet de publicité parce qu'il y avait pression de l'Église. Et donc aujourd'hui, on a découvert bien au-delà de la petite fraction militante une masse de problèmes qui concernaient toute une catégorie nouvelle de gens, et c'est ça qui a fait la transformation majeure. Et je considère que je vous disais il y a quelques instants, la publicité sur les préservatifs était illégale en 84. Aujourd'hui, on est passé au mariage entre personnes du même sexe. C'est quand même une transformation majeure pour moi. C'est vraiment là où on est dans une société de droit et non pas dans une société qui résonne avec des mythes, des essences, des religions. Donc c'est la transformation majeure, hélas, elle a été payée au prix fort, l'épidémie n'est pas terminée, loin de là, mais on a les moyens aujourd'hui quand même de la contrôler et de peut-être même d'en sortir, les moyens médicaux, les moyens techniques, coûteux, mais la grande transformation, je crois, ça a été le drame mondial, cette tragédie qui a été l'émergence de cette épidémie de sida.
Vous considérez qu'il est absurde de penser qu'une orientation sexuelle s'impose à vous comme une identité. Vous dites que c'est le résultat d'une négociation intime dont les termes ne cessent de changer, Daniel Defer.
Oui, c'est une phrase que j'ai un peu résumée dans le bouquin d'interview que j'ai fait sur l'histoire de Ed. Oui, si vous voulez... Mes interlocuteurs me disent « Ah, vous avez découvert très tôt que vous étiez homosexuel. » Je dis « Non, on ne découvre pas qu'on est homosexuel. On découvre qu'on a une curiosité pour le sexe de quelques personnes autour de soi, de son sexe. » Bon, mais pratiquement tous les garçons l'ont fait. On n'est pas pour autant entré dans une identité. Hein, et puis bon, autrefois, quand j'étais jeune, il existait ces édicules qui avaient été créés par le préfet Rambuteau, où effectivement les hommes, les enfants, de tous âges, urinaient les uns à côté des autres et d'une certaine façon, une éducation se faisait sans traumatisme. Bon, une main glissait, on s'était surpris, on était choqué, ou au contraire, on y retournait. En tout cas, bon, tout ça, c'était pas encore de l'identité, c'était des pratiques. Puis petit à petit, on apprend qu'il y a une identité, on apprend qu'il y a des lieux spéciaux. Pour ça, n'empêchait pas de fréquenter ces lieux et d'avoir une petite copine. On est loin entre le moment où on exprime une curiosité et le moment où on arrive à penser que ça va être un choix fondamental. Ben, je dis qu'il se passe facilement 5, 6, 7, 10 ans. Hein, quand j'interroge mes amis pour leur vie, c'est extrêmement... Et donc l'idée qu'on a comme ça une identité sexuelle, c'est une construction. Il y a des gens qui se marient, qui ont des enfants, qui ont une double vie, il y en a d'autres qui ne refusent. Enfin bon, c'est toute une série de choix et de négociations, et ça rend, pour moi, ça ne nous marginalise pas, ça nous donne au contraire une compétence sociale supérieure, parce qu'on apprend à négocier plein de choses. Et moi, je trouve que c'est une formidable école. Moi, si j'avais pas été homosexuel, j'aurais fini coiffeur, j'aurais repris le magasin de mon père en province. Je me dis, mon Dieu, quelle chance j'ai eue, parce que j'ai une vie passionnante, et que je n'aurais pas eue si j'étais resté dans ce que je croyais être au départ, ma sexualité normale. Et puis... le problème, c'est non seulement donc d'arriver à s'auto-identifier soi-même, puis à la deuxième étape, c'est de le dire, d'en faire une identité sociale. Alors ça, naturellement, c'est vrai que là, le militantisme a joué un rôle considérable. C'est vrai que sans le militantisme, et je vois par exemple, surtout aux États-Unis, ce qui a été fait, j'ai été beaucoup à San Francisco, et c'est vrai que les mouvements de San Francisco ont fait un travail d'affirmation, mais alors affirmation d'une identité qui a été prise dans les textes qui font l'histoire de l'homosexualité comme une histoire d'une libération, comme si c'était une essence universelle que les sociétés réprimaient et que l'on progressivement libérait comme un progrès. Or, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et là-dessus, le livre de Foucault sont, je crois, fondamentaux. Et ça m'a étonné que Florence Tamagne, que vous citez, qui écrit quand même 24 ans ou 25 ans après le livre La volonté de savoir, n'ait rien compris à Foucault, qui est vraiment maintenant au cœur de la compréhension de ces questions de sexualité et de genre. Donc, ce qui s'est passé, c'est véritablement une transformation complète de l'expérience que nous faisons de la sexualité et de l'homosexualité. Dans les manifestations, comme ce qu'on appelle les gay pride, où il y a maintenant 300-400 000 personnes, la première, je l'avais vue, il y avait 700 personnes, j'avais été comme ça un peu en spectateur, il y a maintenant 300-400 000 personnes, c'est pas 300-400 000 homosexuels, c'est 300-400 000 personnes qui soutiennent cette liberté de droit à la sexualité qu'on a choisie. Bon. Et alors, c'est un choix qui n'est pas absolument volontaire. C'est une expérience que l'on fait soi-même, qui a une histoire complexe, qui n'est pas la même dans les mêmes sociétés. Ce que c'était dans la société grecque n'a rien à voir avec ce que nous appelons, nous, homosexualité. Vous avez les livres de Dover qui sont extraordinaires pour expliquer ce qu'était la relation sexuelle entre hommes adultes et jeunes hommes libres et faibles. Mais c'était extrêmement codifié, extrêmement... ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons. Donc, il n'y a pas pensé une essence, il a pensé à des expériences historiques. Si vous voulez, dans toutes les sociétés, tous les individus érotisent peut-être les relations de même sexe, mais entre érotiser, comme on peut faire en prison ou à l'armée, des relations avec des personnes de son sexe, et être homosexuel, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la question n'est pas l'homosexualité dans le regard genre, enfin ça existe, mais c'est vrai que l'homosexualité, elle est aujourd'hui pensée, c'est quand même celle que nous avons voulu, nous, affirmer et reconnaître et obtenir dans un régime de droit. Hein, c'est plus dans le regard des autres, c'est aussi dans notre propre regard, dans notre propre affirmation. C'est là la grande transformation.
Une des raisons pour lesquelles vous avez retenu l'émission que nous entendrons est que l'on y entend les voix d'André Gide et de Jean-Louis Borry.
Oui, alors, bien sûr. André Gide, c'est pas lui qui a compté dans ma sexualité. J'ai lu Corydon très tard. Je comprenais rien au cas du Vatican. Par contre, Les nourritures terrestres ont été un livre qui a beaucoup compté. J'aimais beaucoup mieux Proust pour comprendre l'homosexualité, même si lui n'était pas absolument un militant. Mais en même temps, c'est lui qui a développé le plus de choses. Et bon, mais dans même Gide, bon, mythiquement, il a compté. Pour moi, Les nourritures terrestres, c'est un grand moment. J'avais 15 ans, bon, j'ai compris ce qu'était le bonheur. Des instants. Et pas une ambition. Et par contre, c'est vrai, Jean-Louis Borry, je l'ai connu. Son livre sur la guerre, bon, cette guerre que j'ai connue aussi, enfant, qui a eu le prix Goncourt, pas terrible, mais enfin, c'est intéressant quand même. Il y a Le Village français qui vient d'être une série de télévision, reprend un peu, mais d'une manière plus cruel, ce que Borry raconte. Non, son coming out a été très douloureux. Il a été un des premiers intellectuels reconnus qui, à la télévision, a fait ce qu'on appelle maintenant un coming out. Et je crois qu'il l'a ressenti douloureusement. Et donc, j'ai une pensée affective, je l'ai connu un peu, j'ai de l'affection pour cet homme qui a libéré les autres, mais qui a été meurtri de l'effort qu'il a fait.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida, né, elle est année d'amour. À mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour si damné. Oh sida, 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 danger, sida. Oh sida, sida, amour à mort. Oh sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, sida, si damné, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida, assassiné. Oh, sida, sida, comme le furet, passez par ici, repassez par là. Oh, sida, sida, assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort, on rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'emmerde d'amour, sida, sida, né, maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer, seul et sans amour, sida, abandonné, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour. Sida, sida, né, l'état d'amour à à vouloir s'aimer. Ils sont morts d'amour, si d'assassinés.
Daniel Defer, vous teniez à faire entendre Barbara chanter « Si d'amour à mort », une chanson écrite en 1987. Pourquoi ?
Cette femme que j'ai admirée très tôt, dans mon arrivée à Paris, en 62-63, et j'ai eu l'émotion de la rencontrer parce qu'elle voulait servir, aider les malades du sida. Et c'est elle qui a décidé d'aller chanter avec son piano dans les prisons, accompagnée par un médecin qui était Gilles Pialou, qui est aujourd'hui un des principaux professeurs dans cette spécialité, aller chanter et faire de la prévention dans les prisons, qui était extrêmement courageux, et avec une implication, une... Et elle m'avait donné son adresse, là où elle habitait, dehors de Paris. Et elle m'avait dit, si un malade a besoin de moi, vous m'écrivez. Et à chaque fois que quelqu'un souhaitait communiquer avec Barbara, je lui envoyais la lettre et elle lui écrivait. Non, c'est une femme d'une discrétion. Je n'ai jamais fait savoir. Elle a aidé ACT UP, elle a aidé AIDS. Et elle n'a jamais fait savoir, en dehors de cette chanson, elle n'a jamais fait de publicité sur son nom, mais elle a été présente avec... Bon, c'est... Quand j'entendais les battements, les applaudissements, je disais, j'applaudis aussi de tout cœur. C'est une grande dame que j'ai vraiment... Elle m'a beaucoup émue, oui.
Daniel Defer, donc dans l'histoire de l'homosexualité, ce qui a tout changé, c'est bien entendu l'apparition du sida. Votre compagnon, Michel Foucault, est mort du sida en 1984. Très vite, vous avez décidé de créer une association de soutien et d'accompagnement pour aider les malades. Cela a donné AIDE, dont vous avez été le fondateur et le président jusqu'en 1991. Vous avez choisi que votre programme se poursuive avec Les soignants au cœur des années sida, une émission de Ludovic Cellier pour Grand Angle en 1992. En 1992, où en était-on avec le sida, avec la maladie, la recherche ?
Mais à cette époque-là, nous n'avions pas encore de molécules qui atteignent les virus. Hein, c'est quelques années après, d'ailleurs ça s'entend très bien dans le discours des infirmières. Donc la plupart des gens mouraient rapidement.
La seule issue, c'était la mort.
Alors, Dieu merci, non. C'est que des gens qui étaient malades dès cette époque-là sont encore en vie. Mais aujourd'hui, ils sont en vie grâce aux médicaments qu'ils prennent régulièrement et qui font que la maladie n'évolue plus et qu'ils ne sont plus transmetteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a médicalement les moyens de stopper l'épidémie. Je voyais récemment, je disais, une jeune femme a eu des enfants alors qu'elle était elle-même contaminée. Ses enfants, du moment qu'elle était traitée, elle a pu avoir des enfants sans aucun risque pour les enfants. Donc on peut avoir des relations sexuelles avec une personne porteuse du virus sans transmission si cette personne est effectivement soignée. Donc on a les moyens d'arrêter l'épidémie aujourd'hui. À ce moment-là, ce n'était pas le cas. On venait de commencer, je crois, fin 87, l'AZT, qui était un des premiers médicaments qui avait une certaine efficace, mais qui n'atteignait pas franchement le virus. Les trithérapies, c'est quelques années après l'interview qu'on va entendre. Alors c'est vrai, on peut être surpris que je souhaite qu'on donne la voix aux soignants, notamment il y a des infirmières, mais alors qu'on a tout fait pour qu'on entende la voix des patients. Mais je trouve que c'est aussi important. C'est une épidémie qu'on a vécue entre patients et soignants en permanence. Et vous allez entendre, il y a des choses très émouvantes qui sont dites par ces infirmiers. En plus, c'est un service où il y avait deux patrons, le docteur Dormont qui a été longtemps le responsable, le rapport Dormont situait à peu près chaque année quel était l'état des thérapies et des dosages à utiliser. Donc c'était un document important. Et ensuite, c'était Jean-François Delfrécy qui, avec qui on a travaillé dès le début et qui a est maintenant président du comité d'éthique, était une personnalité très très importante dans l'histoire du sida, et qui a été aussi directeur de l'agence de recherche sur le sida.
Comment le rapport du médecin au malade et à cette maladie a-t-il évolué au fil des années ?
Alors, il a évolué, on l'a fait évoluer, il régresse probablement actuellement. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'au début, nous sommes dans une période où il y a une transmission rapide et pas de moyens médicaux. Donc, les médecins sont à l'écoute de tout, même de la parole des malades. Par contre, ils sont très silencieux, ils commandent très peu la maladie aux patients. Si bien qu'on est obligé de former les patients au dialogue avec le médecin, faire pression, il faut que les malades en sachent assez sur les médicaments, sur les stratégies médicales, pour forcer le médecin à parler. Au fur et à mesure que nous avons eu des médicaments avec une sorte de complexité, des médicaments complexes à reprendre, qui sont des multithérapies, dans la même gélule, vous avez plusieurs facteurs actifs qui atteignent directement le virus. Et alors, au fur et à mesure que la médecine a repris du pouvoir, bien, elle a repris de l'autorité sur le malade. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup moins les malades maintenant que la médecine est titulaire de bonnes molécules. Donc le pouvoir médical est quand même une force très puissante et nous avions espéré que d'autres pathologies et d'autres pathologies se sont inspirées de nous. Par exemple, la plupart des premiers cadres de AIDS ont été employés ensuite à la Ligue contre le cancer et pour les maladies orphelines, pour un certain nombre de longues pathologies difficiles à traiter. On a la maladie Crohn, c'est aussi un des anciens de AIDS qui est un peu un des gestionnaires de cette association. Donc on a véritablement fait école dans une espèce d'émergence du rôle du malade, mais on sent en même temps que cette émergence régresse. Les soignants reprennent de plus en plus la parole parce que d'abord ils sont confrontés à des problèmes alors économiques et d'autorité de l'État, de regroupement qui crée de vraies désorganisations dans les hôpitaux. Donc c'est vrai qu'actuellement, peut-être on peut être surpris que je veuille qu'on entende la parole des soignants, alors que on l'entend beaucoup actuellement, mais sur un mode revendicatif. Là, elle est sur un mode compassionnel,
d'accompagnement
et de co-découverte. Hein, parce qu'ils vivent là. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'ils voient les malades longtemps et des malades qui ont l'âge des soignants. Et ça a été très, très important. Les jeunes médecins qui sont aujourd'hui professeurs et les infirmières qui font pas longtemps carrière parce que la carrière est difficile, ils avaient l'âge des premiers malades. Et c'est cette proximité qu'on entend dans l'interview.
On peut revenir peut-être sur la création de AIDS. À quelle obligation, à quelle injonction vous sentiez-vous devoir répondre en fondant AIDS après la mort de Michel Foucault en 1984 ?
Alors, c'est une injonction morale. Si vous voulez, en 84, les médecins ne connaissaient pas grand-chose du sida. Moi, je ne connaissais rien. J'ai tout appris après la mort de Foucault. Ils ne nous ont rien dit. Quand j'ai posé la question quelques jours avant la mort de Foucault au médecin, médecin qui était très compétente, hein, était une des premières à avoir diagnostiqué un Kaposi dans le cadre du sida, elle m'a dit « Mais Daniel, si c'était ça, je vous aurais examiné. » C'était un mensonge que j'ai extrêmement mal ressenti après coup. Et quand je l'ai dit à Foucault pour le rassurer, lui, il a compris et il a trouvé ça indigne aussi. Enfin bon, Foucault est mort sans que nous ayons pu parler de sa maladie. Et véritablement, je trouvais que pour lui, pour notre relation qui avait été une relation militante en créant ensemble le groupe Information sur les prisons, je pouvais pas laisser le silence s'installer. Et j'avais découvert la raison de sa mort sur un document.
Un rapport médical.
Le billet d'hospitalisation, en fait. Et c'est là que je découvre. Et le médecin me dit, comme pour me rassurer socialement, rassurez-vous, Daniel, ce sera effacé. On n'en saura rien. Pour moi, c'était pas ça le problème. De toute façon, on le saurait. De toute façon, le chef du service avait fait une conférence de presse aux journalistes. Les journalistes ont mis 2 ans à m'avouer qu'ils avaient eu l'information par le chef de service. Donc c'était absolument non déontologique. Et donc de toute façon ça saurait et on passerait pour ayant fait un silence social. C'était pas dans nos personnalités. On n'avait pas pu en parler avec Foucault, mais je me sentais une obligation vis-à-vis de lui de le faire. Et sa mère l'a bien compris. Tout le monde faisait un peu le silence pour la protéger, semble-t-il. Et je ne faisais pas d'illusions. Et elle me dit, ce que vous avez fait pour les malades, c'est bien pour lui, il fallait le faire. Et effectivement, c'était bien dans cet esprit-là que je faisais. Je pensais, je devais à sa mémoire militante, que sa mort ne passe pas comme une chose secrète, mais comme le début d'un engagement social, comme nous avions vécu, engagé socialement, quoi. Donc voilà, la création de l'UED, c'était mon rapport personnel à Foucault et une manière de continuer de vivre d'une certaine façon avec lui, dans son entourage, dans son nom, avec sa pensée, quoi. C'est une manière d'être avec lui. C'est une manière d'être veuf, parce que je tiens au lien du mariage que nous n'avons pas connu, parce qu'il n'existait pas, mais j'ai tenu à l'affirmer parce que je sentais autour de moi que les gens ne savaient pas comment m'exprimer leur sympathie, parce qu'effectivement, le lien n'était pas
officiel.
Et donc, ben voilà, je voulais appuyer les choses et pensais à tous les malades qui allaient être encore plus maltraités que n'avait été Foucault, parce qu'il était respecté s'il n'était pas informé. Mais il y avait des tas de gens qu'on n'informait pas et qu'on ne respectait pas du tout, qu'on stigmatisait. Et c'est encore le cas, hein, c'est pas fini.
Daniel Defer, dans la suite de votre programme, nous retrouvons Michel Foucault en 1977. Il était l'invité de Paul Ajac dans un après-midi de France Culture pour son ouvrage « La volonté de savoir », le premier tome de « Histoire de la sexualité » paru en 1976. Cette histoire de la sexualité, dès sa parution, a eu un écho bien au-delà du monde universitaire, a eu une audience très large. À quoi cela a-t-il tenu ?
Je crois qu'il renversait l'approche de l'homosexualité telle que vous le trouvez dans les livres qu'on a entendu tout à l'heure, surtout dans le premier. Il renversait en ce sens que tout le monde racontait, enfin tout le monde, tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui n'étaient pas si nombreux quand même, les gens qui s'intéressaient à cette histoire racontaient l'histoire d'une répression bourgeoise de préférence, la répression, si elle est bourgeoise, est encore plus ignoble. Et donc une répression bourgeoise, plus la bourgeoisie montait en puissance, plus la sexualité était réprimée, et finalement, dans le mouvement révolutionnaire commencé en 68, il était bien normal que on libère aussi la sexualité. Donc il y avait une espèce d'essence, je le disais tout à l'heure, essence réprimée, mais qui était la nature humaine, universelle, et qui était réprimée par une mauvaise classe politique, et suivie d'assez près par le prolétariat, je veux dire. Et cette répression, eh bien, Foucault remettait tout ça en cause. Et il commençait à analyser l'émergence de toute une littérature, non pas sur l'érotisme, ce qu'il appelait l'ars erotica, mais au contraire la naissance d'une science du sexuel, scientia sexualis, qui apparaît notamment dans la littérature médicale, puis psychiatrique, puis la sexologie, qui apparaît dans le droit, mais à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, puis XIXe siècle, ça c'est l'efflorescence maximale, on a toute une littérature sur la sexualité, notamment une littérature extrêmement abondante à la fin du XVIIIe siècle sur la masturbation des enfants. Et on conseille aux parents de bien surveiller la sexualité des enfants et de venir soulever les draps pour voir où ils ont la main la nuit. Autant ma mère venait soulever les draps pour voir si je ne me serrais pas trop la taille dans mes robes improvisées, autant au XVIIIe siècle, les parents étaient convoqués à veiller sur la sexualité des enfants qui risquaient de perdre leur substance en se masturbant. Et donc, finalement, Foucault dit, mais est-ce que c'est vraiment la montée de la répression ou ce n'est pas au contraire une production d'un intérêt pour la sexualité des enfants? Est-ce que finalement on ne crée pas une relation fondamentalement nouvelle entre parents et enfants autour de leur sexualité? Et finalement, Foucault renverse la problématique. Toute cette littérature sexuelle qui apparaît à partir de la fin du XVIIIe siècle est une production d'intérêt sur la sexualité. Et à côté de la sexualité reproductive, on a la sexualité non reproductive qui devient l'objet d'une littérature considérable, monopolisée par juristes, psychiatres et médecins, et d'une certaine manière, on la pathologise. Vous comprenez quand même que je sois enthousiasmé qu'aujourd'hui on ait le droit au mariage. Autrefois, il fallait soigner une pathologie. C'est quand même une transformation majeure. Et c'est ce que Foucault a mis en place. C'était un livre programmatique. Il annonçait toute une série de livres et qui reposait sur un concept complètement nouveau, le biopouvoir, comment le politique, qui autrefois s'était occupé de prélèvements d'impôts, prélèvements de soldats, avait commencé à avoir comme objectif la multiplication de la vie, la démographie, la prolongation de l'espérance de vie, la santé, et que finalement, le pouvoir sur la vie était devenu un des enjeux majeurs du pouvoir politique moderne.
Paraîtra Les aveux de la chair en février chez Gallimard. Comment et en quoi ce quatrième volume vient-il compléter l'histoire de la sexualité ?
Ah, alors là, c'est un volume qui est longtemps resté dans l'ombre parce que Foucault avait écrit pas de publication posthume. Bon. Et il se trouve que comme c'est court, avait eu beaucoup de succès et avait été enregistré par des tas d'auditeurs, les cours ont commencé à apparaître et du coup on a été obligé de faire une édition de référence. Donc beaucoup de choses posthumes sont apparues et au fur et à mesure qu'on lisait ces cours, on découvrait la splendeur de ces analyses de l'Antiquité qui prolongeaient les derniers livres publiés de son vivant, L'usage des plaisirs et le souci de soi, qui portaient sur l'expérience des plaisirs, de tous les plaisirs, dont les plaisirs sexuels chez les Grecs, et également déjà le problème d'une ascèse stoïque qui apparaît dans l'Antiquité romaine. Et on a toujours pensé que l'Antiquité avait connu une sexualité libérée et que c'est le christianisme qui avait commencé à la réprimer. Donc Foucault a étudié un peu comment s'articulait la sexualité de l'Antiquité romaine, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, et le début de la réflexion sur la sexualité chrétienne, notamment par les grands pères de l'Église, dont saint Augustin. Et donc c'est un livre, je ne dirais pas de théologie, mais de réflexion sur la manière dont l'expérience de ce que nous aujourd'hui nous appelons la sexualité, mais qui ne s'appelait pas la sexualité, qui s'appelait l'expérience de la chair, comment cette expérience est devenue un enjeu pour nous éthique. Comment la sexualité aujourd'hui fait-elle partie de notre éthique ? Comment aussi, avec la psychanalyse, la sexualité fait-elle partie de notre identité ? Comment tout cela s'est construit ? Comment c'est devenu l'enjeu de notre subjectivité ? C'est cela que Foucault avait commencé dans les trois volumes « Volonté de savoir », « Usage des plaisirs, souci de soi » et maintenant, on va voir l'aboutissement. Et à ma grande surprise, ce livre que je croyais pas terminé, repris, abandonné, finalement, est un très grand livre de Foucault.
Daniel Defer, c'est avec une des histoires de peinture proposées par Daniel Arras en 2003 que se poursuivra votre nuit rêvée. Nous écouterons Éloge paradoxal de Michel Foucault à travers les Ménines, une émission dans laquelle Daniel Arras fait abondamment référence au texte sur lequel s'ouvraient les mots et les choses. Pourquoi teniez-vous à entendre cette archive en particulier ?
Écoutez, alors, c'est une nuit rêvée, au carré. J'ai des insomnies, beaucoup de gens, de plus en plus, et une nuit, je crois. J'ouvre la radio, parce que quand je suis insomniaque, j'ouvre la radio. D'ailleurs, heureusement, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites pour les insomniaques. Et j'ouvre la radio et je tombe sur cette émission de Daniel Arras. Je suis absolument stupéfait. Grand merci à la radio de nuit. Et je découvre Daniel Arras, et ce texte est extraordinaire. Ben, je trouve que c'est le plus bel hommage qu'un grand historien d'art, c'est vraiment un des très grands historiens d'art, Daniel Arras, et vraiment le plus bel hommage à Foucault, que grâce à cette lecture qui a tellement été énigmatique pour les spécialistes de l'art, ils aient pu reconstituer l'histoire de ce tableau. Et alors, Foucault a fait également une étude sur les Ménines de Picasso, qui était restée inédite et qu'on a finalement publiée dans le cahier de Lerne qui lui a été consacré. Et il m'avait dit à partir du moment où Velázquez s'est imposé dans le tableau, puisque quand même c'était un portrait de famille royale, jamais le peintre n'apparaissait. C'est la première fois que dans un tableau qui normalement était un tableau dynastique, on voit apparaître le peintre. Et il m'avait dit, tu vas voir dans les Ménines de Picasso, je suis sûr que dans toutes les transformations que fera Picasso, il y a deux choses qui ne disparaîtront pas, c'est le miroir et le peintre. Effectivement, il a fait une analyse de toutes les variations des Ménines de Picasso. Il y a toujours le peintre et le tableau. Alors, quelquefois, le peintre est représenté par les pigeons, qui étaient les pigeons que Picasso avait dans son atelier. Mais le peintre est toujours présent dans le tableau.
Vous dites que de vous deux, le plus sensible à la peinture, c'était vous, alors que Michel Foucault l'était davantage à la musique.
Oui, Foucault avait deux liaisons avec des musiciens. Qui était l'un et l'autre des élèves de Messiaen. Il a donc suivi les cours de Messiaen et il s'est considérablement intéressé à la musique de ses amis, notamment de l'un qui se pensait comme le rival de Boulez, qui était Jean Baraquet.
Que nous avons entendu tout à l'heure associé à l'archive Le crime et le criminel avec Michel Foucault.
Ça m'émeut beaucoup parce que Jean Baraquet est peu connu. C'est une personnalité tragique qui est morte très jeune, bien avant Foucault, je crois dans les années 68-69. Je suis allé une fois écouter un concert au domaine musical. Il se vivait comme le rival de Boulez, ce que Boulez ne percevait pas du tout. Vous savez, Stockhausen, Baraquet, Boulez sont des élèves de Messiaen, des grands élèves de Messiaen. Et Baraquet, il a fait un opéra qui dure 8 heures. Je crois qu'il n'a jamais été donné, dont le livret est un livre d'Hermann Broch, La mort de Virgile, pour lequel Foucault avait eu un enthousiasme considérable, et enthousiasme qu'ils avaient partagé. Et finalement, il a fait cet opéra qui dure 8 heures, à partir de La mort de Virgile, qui est un livre extraordinaire. Jamais ça n'a été donné, il y a quelques extraits, bon, je crois que pratiquement tout ce qu'on entend, ce sont des extraits de cet opéra. Et moi, j'avais tenu pour les 10 ans anniversaire de la mort de Foucault qu'on fasse un... pour les 10 ans, je crois que Boulez avait donné un concert. Et pour les 20 ans, j'ai tenu à ce qu'on ait un concert de Baraquet. Et j'avais été très impressionné. C'était le chef de l'opéra qui avait dirigé cet orchestre. Et Monsieur Dutilleux, qui est quand même un des très très grands musiciens, était venu enthousiaste et j'avais été très impressionné de ça. Alors c'est vrai que moi, c'était la peinture qui me passionnait, c'était Manet. J'avais une passion pour Manet, c'est vraiment et c'est vrai, la suite de Velázquez, tout ça. Donc notre relation, Foucault et moi, s'est nouée aussi dans notre amour de Manet, et Foucault a beaucoup écrit sur Manet, préparé un livre qui n'est pas terminé, mais il y a des extraits.
Le noir et la couleur.
Le noir et la couleur.
Daniel Defer, c'est en musique que vous avez choisi que se termine votre nuit rêvée. Pour clore votre programme, nous écouterons Le Sacre du printemps ou L'histoire d'un scandale. Le quatrième temps d'une série que consacrait Véronique Puchala à Igor Stravinsky pour Petite histoire de la musique en 1997. Igor Stravinsky aura été très présent tout au long de cette nuit. Nous avons entendu L'oiseau de feu, Petrouchka, L'histoire d'un soldat. Nous écouterons donc cette archive consacrée au Sacre du printemps. D'où vient et pourquoi cette passion pour Stravinsky et plus particulièrement pour le Sacre du printemps?
C'est une émotion. C'est une émotion extraordinaire. Je ne suis pas musicien. J'ai essayé d'apprendre la musique. Comme je vous disais, mes parents n'avaient pas seulement les moyens de donner des leçons de musique. J'avais été dans la société philharmonique de la ville. Mais comme j'espérais avoir une clarinette, mais j'étais pas bon, on m'a donné un bugle. Il fallait vraiment souffler, j'avais pas les poumons pour. Donc, j'ai arrêté très vite la musique et je ne sais même plus lire une portée. Bon. Donc, la musique pour moi, c'était très difficile et je savais que vraiment quand on est musicien, on reconnaît les mouvements, on comprend. Bon, un concerto, une symphonie, j'avais beaucoup de mal à identifier tout cela. Puis un jour, j'entends le Sacre du printemps. Puis alors après, Agone, l'émotion absolue. Et alors là, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de savoir la musique. Je n'y comprends rien. Je suis entièrement dans l'émotion. Et récemment, le soir encore à la télévision, on a redonné, je crois, Petrouchka. Et là aussi, je voyais, je n'y comprends rien. D'un seul coup, il y a un instrument, il y a plusieurs instruments, il y a la totalité de l'orchestre. Ça part dans tous les sens avec la tête. Alors, le Sacre du printemps, ça c'est... Puis alors, on fait des ballets avec le Sacre du printemps. Alors ça, j'ai vu ceux de Pina Bausch. Mais le plus beau pour moi, ça a été celui d'Angelin Preljolcage. C'était extraordinaire. Et il y avait celui aussi qui avait dirigé Boulez de Béjart. C'est le premier que j'ai vu, d'ailleurs. Mais c'est extraordinaire ce qu'on peut en faire en ballet. Et donc pour moi, c'est vraiment l'émotion absolue, la violence, la renaissance, la mort, la renaissance du printemps. Si bien que pour mes obsèques, la seule chose que je veux, c'est le Sacre du printemps. Rien d'autre, pas de parole, rien, pas de cérémonie. Au cimetière, le Sacre du printemps, ça vous ressuscite.
Daniel Deferne, nous retrouverons dans un peu moins de 3h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Les homosexuels dans le regard des autres, un numéro de Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet en 2000, Les soignants au cœur des années SIDA, un documentaire de Ludovic Cellier pour Grand Angle en 1992, Michel Foucault à propos de la volonté de savoir au micro de Paul Ajac dans les après-midi de France Culture en 1977, Éloge paradoxal de Michel Foucault à travers les Ménines, une des histoires de peinture proposées par Daniel Arras en 2003, et enfin, petite histoire de la musique, Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps ou l'histoire d'un scandale, par Véronique Puchala en 1997. Daniel Deferre, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.
Merci.